premier, alors.
Bonjour David. Je suis un peu gêné. Excusez-moi. Parce que empire, révolution, tout ça, c'est un peu trop général pour moi. On parlera ou on parlera pas. Mais sur plusieurs points de détail, je suis un peu gêné. Tosafistes, ils ont connu le guide des égarés ? J'ai cru comprendre.
Ils ont connu le guide, et ils ont connu le guide parce qu'au moment où ils ont été interpellés par les commandos, sur la question de savoir.
Ils parlent du guide, Ravenoutam ? Je crois pas. Je crois pas. Bon. Autre chose, Rebenoutam a été sollicité par les gens du Sud pour intervenir. Dans un premier temps, il a dit oui, après il s'est retiré en disant « je ne veux pas trancher ». Donc c'est pas tout à fait pareil. Je suis un peu gêné là. L'Espagne, le vert paradis de nos enfances, c'est pas ça l'Espagne. C'est pas ça l'Espagne. Tu dis que tout allait bien depuis que les Omeyyades ont pris le pouvoir et que ensuite les Almohades ont changé tout ça. Mais bon, pour ne parler que des Juifs, je veux dire, c'est à l'ombre de pas mal de massacres parfois, intolérance souvent, incompréhension assez souvent. Et donc je ne sais pas comment. Tu tires de ce que ça prend encore, le Rajba, ok ? Sauf si je me trompe sur la nature exacte du fameux Kherem. Bon, depuis le temps très ancien où j'ai étudié ces choses-là, il y a peut-être une meilleure connaissance. Il n'a jamais attaqué le Rambam. Jamais. Jamais. Excuse-moi, Catherine, c'est classique. Je répète plus fort. Vous avez tous raison de... C'est ma manière un peu. Je murmure. Bon. À ma connaissance, le Rajba n'a jamais condamné Maïmonide. Bon, dans le banc, il me semble, tu me démentiras éventuellement, il est dit à un moment donné, bon, ceux qui enseigneront, qui apprendront et qui enseigneront les livres de la philosophie grecque au moins de 26 ans. Okay. Les livres de la philosophie grecque, à ma connaissance, c'était surtout Maïmonide. Le nom de Maïmonide n'est pas prononcé. Et un peu plus loin, il est dit, il ne s'agit pas de Maïmonide. Ce que propose Maïmonide au monde juif, c'est comme de l'or, Kézahav, il dit. Tu me détrompes peut-être, je ne sais pas. Donc il y a quand même un balancement, une difficulté, je ne sais pas, il faut pouvoir le regarder un petit peu dans le détail. Et puis le banc, 1305, oui, il a pris le Kherem, il y a eu un grand moment à la grande synagogue de Barcelone, sauf comme le dit Touati, ça a eu un quelconque écho sur la continuation des études philosophiques. Nada. En 1305, comme Philippe, c'est le Bel, le premier ou l'autre, je ne sais plus, Philippe le Bel a mis tout le monde dehors, et l'affaire était en tout cas terminée, c'est ce que dit Touati. Je veux dire, ça m'embête un peu sur la description des rapports entre Maïmonide et l'allégorie. Et tu sais aussi bien, si ce n'est mieux que moi, que le guide des égarés consacre des dizaines de chapitres sur la question de l'homonymie. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par tel mot? Comment il peut s'entendre de telle façon? Et je ne sache pas que Maïmonide se soit simplement contenté de dire « Ah, il y a l'allégorie qui va nous effacer. » L'allégorie, on sait bien, l'arabe, c'est le tafsir. Je ne crois pas, détrompe-moi si c'est pas le cas. Hein? Je dis, détrompe-moi si c'est pas exactement la perception que nous donne le Rambam Maïmonide sur la question du... En arabe, c'est le tafsir. OK. Le tafsir qui a été théorisé avant lui par, des grands théologiens du Kalam. OK. Mais... je sais pas. Alors, juste, je veux pas revenir à Saadia Gaon. Je sais pas si sa philosophie est née de la présence d'un empire ou pas. Juste pour tracer le portrait général de Saadia Gaon, il faut quand même ajouter qu'il a commenté le Sefer Yetzirah, c'est pas n'importe quoi, qu'il a traduit ou paraphrasé le Coran, qu'il a fait de la grammaire, qu'il est intervenu sur les polémiques sur le calendrier. Il faut donner du personnage, et ni sympathie ni antipathie pour lui, c'est pas ça la question. Tu as tout à fait raison de dire qu'au Xe siècle, Saadia Gaon, ça inaugure effectivement, dans l'espace juif, quelque chose qui était nouveau. OK. Donc, je ne sais pas. Alors, je laisse la parole aux autres. Le détail, peut-être, est plus important que, pour moi, si tu veux, cette généralité dont tu parles, l'empire, le savoir majoritaire, bon, ça me gêne. Voilà. Je livre ces remarques qui sont critiques.
Le Rav, il a un cours, c'est pas qu'il aime pas à chaque fois, on sait, le dimanche à 5h30, il a un cours qu'il donne sur Zoom, c'est pour ça qu'il peut partir.
Je suis tout à fait d'accord que sur chacun des points que j'ai mentionnés, on pourrait rentrer dans plus de détails. J'ai essayé de montrer que il y avait, et ça, je pense que c'est pas une invention de ma part. Non, je parle de l'ensemble. Je parle de la démarche que j'ai adoptée ici et que tu soulignes que du point de vue des détails, on aurait pu être plus précis. J'assume complètement le côté position de surplomb. De cette histoire, j'essaie de faire ressortir une chose qui est que les grands moments de l'histoire de la philosophie juive ont correspondu à des grands moments dans lesquels le savoir et le pouvoir étaient associés dans le monde arabo-musulman. Et que les débats, et c'est surtout ce point-là qui m'intéresse, que les débats, la rhétorique qui est utilisée tant par les auteurs qui essayent de promouvoir la philosophie que ceux qui essayent de ou qui considèrent que c'est une menace, cette rhétorique, elle est de part en part travaillée par des problématiques politiques. Par exemple, sur la question de l'allégorie, je ne suis pas en train de juger le Rambam, ce qu'il fait, comment il utilise l'allégorie ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment la question de l'allégorie, qui est une des manifestations de la philosophie juive médiévale, malgré tout, c'est le fait de se mettre là où la tradition nous a appris à lire les versets d'une certaine façon, c'est-à-dire avec le Midrash. Les philosophes se mettent à la lire autrement et à dire, en fait, ces versets, ils cachent quelque chose, un sens profond qui est parfois complètement différent du sens littéral, qui parfois n'a aucune espèce d'importance. Ça fait partie des choses, des deux manières dont le Rambam présente l'allégorie dans le guide. Des fois, le sens extérieur est comparable à l'argent et le sens intérieur à l'or, mais parfois le sens extérieur, il n'a aucune valeur. Et ce qui compte uniquement, c'est le sens intérieur. Mais en laissant même ça de côté, le point qui m'intéresse, c'est quelle angoisse s'exprime chez les opposants à la philosophie ou à une forme de radicalité philosophique. Quand ils s'en prennent spécifiquement à l'allégorie. Et cette angoisse, me semble-t-il, assez clairement, c'est une angoisse de disparition. Si on se met à allégoriser, on disparaît. Et qu'est-ce que ça veut dire, fondamentalement, ça ? C'est-à-dire, si on se met à penser comme les autres, on va disparaître. Oui.
Gabriel.
Oui, bonjour. Au vu de ce que vous avez dit, je retire deux impasses finalement, deux lectures qui renferment des impasses concernant la compréhension de la vocation de la Torah finalement. Est-ce que... alors, ces deux impasses sont les suivantes. Soit on applique une lecture allégorique, comme vous dites, de la Torah, auquel cas la Torah serait une sorte de propédeutique au savoir, et où finalement, pour ma part, on instrumentaliserait les sciences profanes pour légitimer le texte de la Révélation. Cette première lecture, je pense, présente un écueil parce que finalement, en voulant absolument faire la synthèse entre la foi, entre la Révélation et la raison, est-ce que on n'a pas le risque de légitimer un système coercitif en disant, eh bien, puisque la Torah révèle des vérités scientifiques, il n'y a aucune raison pour qu'on remette en question le texte religieux et donc il peut devenir la structure de la société. Et peut-être que le geste émancipateur et libérateur de l'humanisme consiste en fait à séparer la foi de la raison. Donc là, je ne sais pas s'il y a une menace du peuple juif ou même de tout autre monothéisme, mais peut-être qu'il y a une menace qui existe contre l'humanité ou contre la liberté ou tout ce qu'on peut espérer contre l'idéal d'une humanitas. La deuxième lecture qui est aussi un écueil et qui va contre la légitimation d'un pouvoir religieux, je crois que c'est la lecture de Spinoza qui dit que finalement la Torah n'est qu'un manuel machiavélique de politique finalement, d'éducation de masse un peu inculte. Et là pour le coup je crois aussi qu'on perd quelque chose de l'essence de la Torah et qu'il y a une menace du peuple juif qui se fait ressentir dans la mesure où un message spécifique au judaïsme se perd. Je crois que le pilier très compliqué que vous avez abordé au tout début, c'était sur le savoir et le pouvoir. Est-ce que savoir, c'est pouvoir ? Dans le premier cas, peut-être que c'est plutôt faire croire qui est pouvoir, que légitimer, c'est le pouvoir. La question, c'est est-ce que le judaïsme a vocation à se jeter aveuglément dans le pouvoir ? Est-ce que le message du judaïsme, c'est pas de proposer une alternative au pouvoir et que donc au lieu de penser légitimation, on pense remise en question, qui est selon Lévinas la première démarche éthique en fait, avant de légitimer, avant de chercher à vouloir appliquer une grille de lecture pour obtenir un résultat. Ce qui est antérieur à la légitimation, c'est la remise en question.
En fait, ce que j'ai. Merci beaucoup pour la question. Disons, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est un petit peu de compliquer le débat, le problème de la philosophie juive. On a un peu tendance à précisément choisir son camp et dire en gros les philosophes c'est mieux que les anti-philosophes parce qu'ils sont plus universalistes. Ils sont plus à même de poser les grandes questions. Ils ont le courage de poser, d'introduire une forme de. Ils prennent le risque de confronter la Torah à l'universel. Et puis d'un autre côté, on a les traditionalistes qui sont vraiment très bêtes et qui comprennent rien à rien. Et voilà, j'ai simplement voulu essayer de montrer que, c'est plus complexe que ça, ce qui se joue dans les deux, disons, dans des deux côtés dans les deux camps quoi de cette affaire, du côté des philosophes, en tout cas à l'époque médiévale. Pas sûr qu'on puisse dire que les intentions soient parfaitement pures, entre guillemets. Il y a aussi des enjeux qui sont des enjeux politiques, et c'est pas grave. Je veux dire, c'est l'objet de ce séminaire d'essayer d'étudier les stratégies de survie des Juifs en exil. Et je pense que c'est assez clair que la stratégie qu'on peut trouver à la fois chez Saadia Gaon et chez Maïmonide, ben, elle consiste à constituer un certain type d'autorité par le savoir et par le recours à un certain type de savoir. Donc il s'agit à la fois de mettre la Torah, le judaïsme, à l'épreuve de l'universel, de l'exil, et à la fois d'essayer de garantir sa survie par un certain type de discours, parce que justement les juifs n'ont pas le pouvoir, et c'est particulièrement vrai de Maïmonide. Il a un pouvoir communautaire, local, il est respecté par beaucoup de par les juifs dans beaucoup d'endroits qui se tournent vers lui pour demander son avis, mais il n'a pas un pouvoir réel, effectif. Il ne peut pas s'appuyer sur une institution comme celle qui existait à l'époque des Géonim. Et donc il va se constituer un certain type de pouvoir, et va proposer une certaine organisation des juifs, du peuple juif, je ne sais pas comment il faut l'appeler, par une certaine reconfiguration du discours traditionnel, qui passe par la référence à la philosophie. Et puis d'un autre côté, ben, ce que j'ai essayé de montrer du coup, de l'autre côté, c'est que du côté de la réaction, eh ben, on a une angoisse profonde, qui est une angoisse de survie face à ce risque-là, à cette prise de risque-là, qui conduit sans doute à un autre écueil, qui est celui de la fermeture à toute forme de savoir autre, d'altérité, etc. Et donc, alors je ne me prononcerai pas pour le coup sur la question de l'essence du judaïsme, ce que doit être le judaïsme, mais en tout cas il est pris dans cette difficulté particulière qui fait que son rapport au savoir, il implique toujours des questions quant à sa survie.
Daniel Hirsch.
Merci beaucoup sur vos propos que je trouve à chaque fois très clairs, et votre audace d'aller titiller des zones délicates et d'ouvrir. Je pense que les juifs, conscients de leur judaïsme, de quelque manière qu'ils le réalisent, sont conscients de réfléchir en adulte. Et sont conscients, doivent réfléchir en adulte, et bien sûr de s'ouvrir à tout ce qui les entoure, et c'est ce qu'ils ont fait toute leur vie, toute leur existence. Ils se sont ouverts à tout ce qui les entourait. Je ne pense pas qu'il y ait à ce moment-là forcément une perversion du message de la Torah, bien au contraire. À l'époque d'Al-Andalus, même si évidemment tout n'est pas rose à cette époque-là pour les Juifs, je pense qu'il y a une confrontation essentielle avec la philosophie grecque, puisque dans le livre de David Bannon, que je trouve remarquable, il répertorie tous les juifs et les musulmans qui ont traduit les textes grecs qui avaient disparu, et que sans eux, nous ne pourrions vraiment pas parler même aujourd'hui de philosophie grecque, puisque nous n'aurions pas eu accès à tout ça. Et il évoque la confrontation justement, dans la traduction aussi, de tous ces juifs qui sont des juifs pratiquants de l'époque, tels qu'ils pratiquaient à cette époque-là, qui n'est probablement pas forcément la même que la nôtre aujourd'hui. Mais en tout cas, ils se sont enrichis et ils ont permis d'ailleurs à notre civilisation d'avoir encore la trace de tous ces textes-là. Ce sont les musulmans et les juifs qui ont permis à la philosophie grecque, me semble-t-il, en tout cas dans le livre de David Bannon, de persister de nos jours et de nous permettre de parler encore de ce thème-là, de la confrontation entre Rome, Athènes et Jérusalem. Et je trouve que ce n'est pas parce qu'on se confronte à la philosophie qu'on perd la révélation. Je pense que Franz Rosenzweig, je ne le connais pas suffisamment bien, mais pour moi, c'est le prototype même de philosophe allemand brillantissime qui connaît parfaitement la philosophie grecque et qui admet totalement la révélation. Voilà.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'ai pas tellement de choses à répondre.
Je disais que j'étais globalement d'accord avec ce que vous avez dit. Et je vous remercie pour votre intervention. Oui, c'est vrai qu'il y a certains textes, que, par exemple, ne sont conservés que dans des traductions hébraïques, dont l'original arabe est perdu, certains commentaires d'Averroès. Il est clair que la traduction a joué un rôle fondamental dans l'histoire de la philosophie, et en particulier dans ce qu'on appelle philosophie juive. Ça, c'est évident. Je veux dire, Lévinas présente la question, le problème d'une philosophie juive comme étant un problème de traduction, traduire. Précisément de sa formule, mais il s'agit de traduire le message juif dans la langue de l'universel. Mais ce paradigme de la traduction, effectivement, on peut aussi le retrouver dans ce moment médiéval où la traduction, elle joue un rôle fondamental. Et encore une fois, s'il y a eu des traductions, c'est là où j'ajoute qui complique un peu le tableau général, c'est que s'il y a eu ces traductions, c'est parce qu'elles ont été suscitées par le pouvoir. Et si les Juifs ont effectivement joué un rôle majeur dans cette entreprise de traduction, souvent ils ont servi d'intermédiaires pour parvenir au texte final, c'est dans une certaine configuration, certaines situations par rapport au pouvoir.
Et vous parlez d'un mécénat à cette époque-là, justement, je n'en avais jamais entendu parler. Oui. Dans le livre de Bannon, il répertorie tous les juifs et tous les musulmans qui ont contribué à cette traduction, mais il ne parle pas de mécénat. Donc effectivement, là, j'ai vu avec votre terme, peut-être, un lien politique à ce moment-là, de valorisation de ces traductions, de mise en place d'une réflexion, qu'elle soit d'ailleurs philosophique ou médicale. Parce que bon nombre d'écrits concernant la médecine ont été traduits aussi à cette époque-là. Je crois que c'est Galien, il me semble, qui a été traduit à cette époque-là. Et donc tout un tas de choses, nos connaissances actuelles, il y a là un pilier essentiel, en tout cas dans cette période-là. Et les Juifs ont fait partie de toute cette période d'échange et nous existons toujours. Nous ne sommes pas dissous par la confrontation avec d'autres cultures païennes ou autres. On est toujours là. Pas de crainte.
Catherine Chavier.
Je voulais vous demander, comme il y a eu un mouvement semblable vers la philosophie chez les musulmans alors qu'ils avaient un empire, chez les chrétiens alors qu'ils étaient aussi au pouvoir, dans quelle mesure on peut aussi parler de stratégie de survie, puisque ils survivaient, il n'y avait pas de problème. Bon, et eux-mêmes à l'intérieur de leur culture musulmane d'une part et chrétienne d'autre part ont été critiqués par certains. On a des figures de critiques semblables dans les deux cas. Donc là, je pense que le schéma explicatif par la stratégie de survie ne semble pas suffire. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, très très rapide, Quel rapport vous faites entre ce que vous avez dit sur l'interprétation en particulier allégorique et puis la tradition des quatre niveaux d'explication traditionnels dans le judaïsme, pshat, remez, etc. Où est-ce que vous placez cette philosophie dans les quatre niveaux?
Oui, alors bien sûr, je suis tout à fait d'accord que je pose un cadre qui est très schématique et que la philosophie elle-même, dans les différents contextes que j'ai évoqués, qui sont d'un côté l'empire hellénistique et puis d'un autre côté les empires, les califats abbassides d'un côté, Omeyyades de Cordoue de l'autre au Moyen-Âge, que la philosophie a un rôle simple dans ces contextes-là ou qu'elle n'apparaît pas comme étant une potentielle menace pour le pouvoir. Le pouvoir a un rapport qui est lui-même ambivalent vis-à-vis de la philosophie et ça ne résout pas le problème dont je suis parti au départ, ou le paradigme dont je suis parti au départ, c'est-à-dire la question raison-révélation, le débat raison-révélation qui va se poser dans effectivement toutes les trois grandes traditions religieuses au Moyen-Âge. Ça ne dissout pas ce problème-là. Ça, je pense que ça le complique. Voilà. Une illustration peut-être de ce rapport complexe et ambivalent du pouvoir vis-à-vis des philosophes et des philosophes vis-à-vis du pouvoir, c'est la position d'Averroès par rapport au pouvoir almohade, qui est très compliqué. Pendant très longtemps, il était un allié du pouvoir almohade, jusqu'à ce que on considère qu'il va trop loin, il est trop radical sur certaines questions, et il va être marginalisé. Mais voilà, je pense que c'est une bonne illustration de cette ambivalence. Y a un livre qui moi m'a profondément marqué il y a une dizaine, quinzaine d'années, qui est le livre de Sarah Strumza sur Maïmonide, où il y a un chapitre, Sarah Strumza, avec un chapitre très provocateur, où elle explique que, où elle présente Maïmonide comme un fondamentaliste almohade. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle repère qu'il y a un grand nombre de... C'est-à-dire, quand bien même, sur le plan biographique, il a été la victime par excellence des almohades, il a dû fuir la péninsule ibérique avec sa famille, s'est peut-être converti de force à l'islam, on ne sait pas trop. Il y a ce moment très obscur dans sa vie quand il est en Afrique du Nord. Donc quand bien même il est la victime objective du pouvoir almohade, il y a toute une série de schèmes de pensée qu'on trouve dans la littérature almohade, en particulier chez le fondateur des almohades qui est Ibn Toumart, et qu'on trouve chez Maïmonide, cette espèce de volonté de systématiser la loi, de résoudre, d'en finir avec toutes les discussions en matière juridique. Et puis d'un autre côté, la tendance fondamentaliste qu'on retrouve dans l'ensemble de son œuvre au sens strict, c'est-à-dire retourner aux principes qu'on retrouve en matière justement de croyances, pour revenir aux croyances fondamentales qu'on retrouve qui traverse en fait son œuvre. Bah, je pense que ça se répercute aussi dans sa façon d'envisager la direction d'une communauté en exil. C'est y a quelque chose qui fonctionne dans un cadre impérial dans lequel il y a un pouvoir qui a un pouvoir effectif et qui va être transposé avec les moyens du bord, en quelque sorte, pour organiser la communauté juive, qu'on va essayer de mettre en œuvre pour ça. Et par ailleurs, le type d'ambivalence qu'on peut trouver vis-à-vis de la figure du philosophe que j'ai mentionné à propos d'Averroès, on va la retrouver à propos de Maïmonide, où effectivement les discussions dans les controverses maïmonidiennes sont hyper compliquées parce que c'est pas les défenseurs de Maïmonide d'un côté et puis de l'autre les opposants radicaux qui considèrent que c'est un hérétique. Il y a des positions qui sont hyper nuancées. Tout à l'heure on parlait du Rajba, il y a tout un panel de positions possible sur ce point-là. Maintenant, quant à la question des quatre niveaux d'interprétation, c'est tout un dossier aussi très, très intéressant. La notion de Pardès, qui est très connue, Pshat, Remez, Drash et Sod, elle apparaît en fait dans des textes tardifs de la littérature zoharique et elle n'a pas du tout de fondement ancien. Donc moi, une des pistes sur laquelle je travaille depuis un certain temps, c'est qui n'est pas d'ailleurs une invention de ma part, c'est l'idée selon laquelle, en fait, c'est justement parce que il y a eu ce moment de philosophique où on a l'invention d'un type d'exégèse complètement nouveau du point de vue de la tradition. On va dire, il y a c'est une question de terminologie qui est un petit peu complexe. Il y a le sens littéral, et puis il y a un sens profond qui est complètement distinct du sens littéral. On est dans quelque chose de très différent du Midrash. Là, on sort d'un certain type de modèle d'interprétation qui complique beaucoup le tableau, parce que ça va poser la question de savoir quel est comment les philosophes envisagent le Midrash. Et ça, c'est une question hyper compliquée. Un auteur comme Ibn Ezra, par exemple, qui est donc Abraham Ibn Ezra, qui est un des grands commentateurs, un des grands Pashtanim, un des grands tenants du Pshat comme étant le sens le plus important qu'il faut rechercher, il est en même temps un auteur qui va se revendiquer d'un sod, donc d'un sens profond, qui pour lui est identifié avec des savoirs scientifiques. Et ça pose la question de savoir, entre les deux, qu'est-ce qu'on fait du Midrash? Et sur ce point-là, c'est compliqué, il est souvent en désaccord avec le Midrash. Et donc la piste, c'est de dire que là, on a vraiment, avec ce moment de l'histoire de l'interprétation dans la tradition juive, l'invention de cette idée qu'il y aurait des strates de signification qui sont distinctes les unes des autres. On aurait tout d'un coup le pshat, et puis le midrash qui devient une strate de signification à part entière, ce qui ne correspond pas du tout à la manière dont le pshat et le midrash s'articulent dans le Talmud, par exemple. Dans le Talmud, on n'a pas cette idée que le midrash ce serait autre chose que le sens littéral. En tout cas, c'est pas du tout évident. Et puis, on aura encore un troisième niveau de signification, qui est le remez. Alors, c'est très, très, très compliqué de comprendre ce que les kabbalistes comprennent par remez, et ils ne sont pas d'accord sur ce point-là, mais il y en a certains pour lesquels le remez, c'est justement l'allégorisation philosophique, et puis ensuite, le sod. Et donc, l'idée, ce serait de dire que les kabbalistes vont s'inspirer, en quelque sorte, des philosophes en ajoutant encore une strate de signification à ce qu'ils ont eux-mêmes élaboré avec cette idée d'un sens allégorique.
Catherine, sur ce point précis, le dossier de Moshe Hillel, il y a quelques années, pense que ça apparaît dans le 14e siècle. Mais elle pense que c'est dans le 14e siècle, en détail,
pour pouvoir mettre... Je pense que cette systématisation dans les quatre niveaux, c'est vers le 14e. A-t-il raison, a-t-il tort, je ne sais pas. Donc sur ce point précis, en tout cas, tu lui donnes raison.
Merci.
Et Diane Corin.
Oui, j'entendais dans votre intervention... comment les Juifs ont été soumis et se sont soumis un petit peu à ce mode de relation et d'interprétation pour survivre. Et donc, et comme quelque chose, c'est comme s'ils avaient eux-mêmes, peut-être contre, pour créer justement un rapport adapté aux politiques de l'époque, parce que ils n'avaient pas la vie rose à l'époque. Ils ont été torturés, exilés, même quand on voit Salamanque, toute la philologie, et toute cette période qui précède et qui pose question. Il y a eu des, j'entendais cette espèce de politique quand même un peu sanglant aussi qui autour de cette soumission. Et tout à coup, je sais pas, c'est quand vous dites politique de survie, ça passe comme ça, mais c'est il y avait vraiment des c'était un moment d'adaptation très très particulier, et que c'est un mode de rapport aussi de survivance. Enfin, je l'entends à demi-mot dans votre.
Oui, je crois pas l'avoir dit à demi-mot.
Ouais. Parce que c'est très beau que tout ça aujourd'hui puisse rester sur le plan théorique, et c'est magnifique, et c'est extraordinaire qu'il y ait cette continuité, mais il y a une discontinuité sur toutes les situations politiques éthiques.
Par exemple, dans le texte de Yehuda Levi que je vous ai cité dans le poème, le motif de la soumission, il est présent avec une opposition qui est faite entre la soumission au pouvoir des rois et la soumission au pouvoir du roi, qui résonne avec le livre de Danny Trom. Donc c'est effectivement, enfin, moi, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant dans la rhétorique antiphilosophique. C'est ça que j'entends de manière très forte, c'est cette angoisse de disparition. C'est le fait qu'on est tout le temps en train de se battre pour essayer de survivre et de préserver aussi notre identité spécifique. Et que le fait de recourir à la philosophie, ça peut paraître être quelque chose qui remet en question tout ça et qui explique en fait la violence des réactions.
Textes ont été manipulés par le traducteur, où certains mots, certains passages ont été modifiés de façon un peu répétitive dans les textes anciens pour l'adapter à cette nouvelle croyance. Et dans certains écrits zohariques, c'est très dont on a les. Enfin, c'était pas. C'était vraiment de la survie, quoi. C'était pas seulement pour.
Je pense qu'il faut effectivement lire les textes juifs à la lumière
de cette souffrance aussi, de cette manipulation.
Je ne sais pas si pour entrer dans le pathos de la souffrance, en tout cas.
Non, mais des communautés qui fait
tout. La question de comment on survient des groupes. Et notre instrument principal, c'est la pensée, c'est des textes. En tout cas, c'est principalement ça qu'on a gardé, nous.
Et donc, effectivement, ta présentation était très intéressante, comme elle couvre un vaste domaine. Je voudrais prendre juste deux points un peu de précis philologiques, en quelque sorte. C'est que tu as souligné au début, tu es passé vite, à mon avis, c'est fondamental, sur l'idée que les deux premières citations que tu nous proposes, à savoir celle de Rabbi Akiva sur les livres extérieurs, celui qui lit n'a pas de part au monde à venir, donc c'est un rerem vraiment très important, et sur la malédiction concernant la Chochma Yevanit. Et tu as dit assez rapidement que, à ton sens, en tout cas sans rentrer dans le détail, que Chochma Yevanit ne renvoyait pas à la philosophie grecque platonicienne, principalement, certainement pas, mais plutôt à, si on suit le texte du Talmud assez clairement, à une sorte de langage qui se parle dans les sphères du pouvoir. Ce qui prend évidemment un autre sens, et bon, comme tu as fait allusion rapidement, j'ai défendu dans un article que, au fond, c'était la sophistique telle que l'entendait Platon qui était désignée par ce terme. Par ailleurs, sur les livres extérieurs de Rabbi Akiva, tu as dit à mon sens très justement qu'effectivement, le contexte voit clairement que c'est plutôt les livres, on pourrait dire, en quelque sorte, le christianisme qui commence à s'élaborer en Judée, et notamment qui s'assimile au pouvoir romain qui va lui-même persécuter et mettre à mort Rabbi Akiva dans les conditions qu'on sait, en faire un martyr. Donc, effectivement, c'est une position très polémique de Rabbi Akiva en regard des judaïsmes qui christianisent et romanisent, en quelque sorte. Donc là encore, on n'est pas du tout dans la question, le fameux paradigme philosophie, rationalisme et révélation, qui est un truc hérité, au fond, des grandes religions christianisme et islam, et qui sont des effets de structure qu'on retrouve un peu une salade dont on a du mal à sortir. Et donc, c'est vrai que tu t'efforces de nous sortir de cette salade, qui est quand même assez étouffante et abrutissante. Quoi. C'est un pantosan, cette affaire. Donc, ce que tu dis clairement en passant, c'est que ces termes-là vont être repris par les défenseurs un peu crispés de la tradition, mais à contresens. Donc ça, ce qui est quand même, tu n'as pas insisté, mais je l'attrape au vol, j'y insiste, ce qui montre bien que ces débats-là de traduction influence extérieure sont souvent complètement biaisés par le fait que les défenseurs, a priori, d'une tradition intègre, en réalité, elle est complètement assimilée par l'utilisation qu'elle fait de termes traditionnels dont elle a perdu le sens. En l'occurrence, si on prend ces deux notions que tu as citées au départ. Et ce qui me permet de rebondir sur la fin, où j'attendais que tu fasses une remarque, notamment te connaissant sur ces questions-là, c'est extraordinaire sur la fin, c'est que sur ce débat entre les disciples de Maïmonide qui font qui interprètent l'allégorie, qui interprètent dans le passage de Baba Metsiah que Sarah, ça serait le Homer, et Abraham, la Tsoura, et qu'en fait, ça serait une allégorie, et donc les défenseurs de la tradition qui l'attrapent sur l'idée qu'ils l'allégorisent, les personnages d'Abraham et Sarah qui ne seraient plus des réalités historiques, mais en font des fictions conceptuelles. Évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est que mon sens, c'est que tu vois bien qu'il faut envoyer dos à dos les uns et les autres. Parce que tu as d'un côté ceux qui font une lecture, si tu veux, historiciste, comme si la réalité historique avait un rapport avec la vérité. Donc on voit bien que c'est dans la sortie d'Égypte, toutes ces questions-là aujourd'hui. Et puis de l'autre, les maïmonidiens, des aristotéliciens purs et durs, qui font si tu veux, qui plaque sur la tradition juive un sexisme aristotélicien, hein, où la femme est la matière et où l'homme est la forme, alors que quand même s'il y a un texte féministe, c'est la Bible, hein, où les personnages féminins, il n'y a pas dans l'Antiquité, un texte où les personnages féminins aient un tel rayonnement et une telle importance. Les versets qui disent à Abraham, écoute la voix de Sarah, quand on sait que Rebecca, c'est elle qui aimait Yaakov, alors que Yitzhak aimait Esaü, etc. Pardon ? Alors ça, non, le point est que tel qu'il le ramène là, si tu prends à la lettre, effectivement, c'est l'air d'être ça, mais dans la lecture maïmonidienne, c'est pas ça. Donc j'attendais que tu parles de ce point-là. Puisque...
Le Maharal reprend
ce... Oui, comme il reprend le Sichel Anivdal, qui est un concept aristotélicien, mais c'est pareil.
Oui, alors, tu as raison de dire que le débat médiéval et la manière dont on utilise en fait les textes que j'ai cités là du Talmud est biaisé. Enfin, effectivement, la manière dont tu poses le paradoxe est assez éclairante, quoi. C'est vrai que les tenants autoproclamés de la tradition, en fait, lisent les textes traditionnels avec des lunettes qui sont probablement travaillées par d'autres sources. Alors j'avais dans mon petit dossier inclus un passage sur ce que j'appelle le larcin des Grecs. C'est peut-être l'occasion juste d'y venir. Donc parmi les choses qui vont être effectivement constamment invoquées dans les controverses sur Maïmonide et sur la philosophie, il y a le recours à des livres extérieurs ou des sciences extérieures. Et l'expression qu'il y a derrière, c'est celle de la Mishnah, c'est l'avis de Rabbi Akiva que j'ai cité et que tu as mentionné. Et donc la stratégie, disons, récurrente des adversaires consiste à dire, bah, vous voyez, la Mishnah interdit, Rabbi Akiva interdit de lire d'un côté des livres extérieurs, et puis d'un autre côté, elle condamne, elle maudit celui qui lit la science grecque. Alors une des stratégies qui va être adoptée, pardon ? Qui enseigne la science grecque à tes enfants, exactement. Et une des stratégies qui va être adoptée par les Maïmonidiens, qui sont confrontés au même texte et qui en fait les lisent à peu près de la même façon, en réalité. Ils vont pas du tout faire la lecture, pas du tout, ça se discute. Maïmonide lui-même lit le texte de la malédiction qui porte sur celui qui enseigne la Chochmat Yevanit, comme Rashi, en disant que la Chochmat Yevanit, c'est un usage codé de la langue grecque qu'on a perdu, on ne sait plus ce que c'est, et c'est pas du tout la science grecque. Par contre, ses disciples, bah, qui sont confrontés à cette rhétorique là très agressive qui dit bon, mais vous faites de la science grecque, c'est interdit, bah, ils vont adopter la stratégie qui consiste à dire bah, précisément la philosophie en tant qu'elle est vraie n'est pas grecque. Ça, je trouve que c'est très beau, c'est très fort ce que vous avez dans le petit texte là de Lévi Ben Avraham de Villefranche, qui est peut-être celui à qui on doit l'interprétation allégorique de Abraham et Sarah comme matière et forme, et chez qui on trouve cette stratégie qui consiste à dire bon, la Chorma en tant que telle, elle, si elle est vraie, elle est d'Israël. Et si elle est grecque, c'est qu'elle est fausse. Donc ce qu'ils ont maudit, c'est forcément autre chose que la philosophie. Ce qu'il explique ici, donc en revanche, donc ils ont interdit, le passage qui précède, qui est un commentaire justement de cette malédiction de la Chochmat Yevanit, de l'enseignement de la Chochmat Yevanit, consiste à dire, ils ont interdit d'étudier les livres des Grecs qui étaient consacrés à leur rite de Avodah Zarah. Par contre, ils ne se sont pas référés aux livres des philosophes authentiques, comme Socrate, Platon, Aristote et leurs semblables, qui étaient nouveaux en ce temps-là et n'étaient pas répandus auprès de tous. Du reste, cette sorte de sagesse existait parmi les sages d'Israël dans des livres hébraïques dédiés, et ils n'attribuaient une sagesse digne de louange qu'à Israël, comme il est dit. Elle est votre sagesse et votre intelligence. Donc, ce que propose Lévi Ben Avraham, c'est de dire la Chochma, en tant qu'elle est vraie, elle est d'Israël. Alors, c'est toute cette, ce que j'appelle le larcin des Grecs, c'est toute cette idée selon laquelle on avait une science des secrets de la Torah. Elle a été perdue en raison de l'exil, elle nous a été volée par les Grecs, notamment. Et donc le fait de faire des sciences, ça consiste simplement à reprendre ce qui nous appartenait. Alors ça, par parenthèse, c'est très intéressant de voir que c'est une légende qui est partagée par notamment qu'on trouve dans les textes de les légendes qui servait à légitimer l'empire sassanide zoroastrien. Ce qui a été montré par Dimitri Goutas dans ce livre qui a été traduit en français, qui est un livre très, très, très important, Pensée grecque et culture arabe, qui porte sur le moment de la traduction des textes grecs vers l'arabe, et qui exhume notamment ces textes-là, donc des textes zoroastriens qui racontent la même histoire, que Zoroastre avait la vérité, qu'elle a été volée ensuite par Alexandre le Grand, et puis que bah, le fait de constituer une bibliothèque impériale, c'est reprendre le savoir qui est le nôtre. Et ce mythe-là, il va être repris par les Abbassides, et on le retrouve chez les disciples de Maïmonide. Alors Maïmonide, il va pas. Maïmonide, c'est un petit peu différent, je dirais, parce qu'il ne dit pas ce que dit ici Lévi ben Avraham, précisément parce qu'il ne lit pas Chochmat Yevanit de la même façon. Je dirais, il lit Chochmat Yevanit bien, il dit Chochmat Yevanit, ça parle, disons, de la sophistique, si tu veux. Donc il n'a pas le problème qu'a Lévi ben Avraham, qui lui est confronté à des gens qui disent vous faites de la Chochmat Yevanit, vous faites de la Chochmat Yevanit, et qui va dire non, je ne fais pas de la Chochmat Yevanit, je fais de la Chochma. Et la Chochma, c'est Israël. Oui, mais il n'y a pas cette idée que ça a été volé, que les Grecs sont méchants en tant que tels, et que nous, on est gentils, et que donc...
perdu à cause bon, de nos balades à travers le temps dans les nations. Mais c'est un topos, c'est-à-dire. Mais Maïmonide ne dit pas à ce moment-là ça vaut rien, mais il légitime, bon, peut-être en face d'autres qui le contesteraient, mais il ne me semble pas que ce soit un élément qui puisse être un fil directeur. C'est ce que je dis là, parlant de Maïmonide. Bon. Il y en aurait d'autres que tu n'as pas abordé, mais on ne peut pas tout aborder. C'est Gershoni, le Ralbag, et puis après Hasdai Kreskas. Bon, on n'en est pas... C'est pas de ça qu'on parle maintenant, sur ce point précis. Si je peux, dire quelque chose d'autre. J'ai donné l'impression que j'étais le bras du sabre, Seif al-Islam, comme on dit, prêt à découper la gorge de ceux qui voudraient toucher à la Torah. Bon, c'est pas mon truc du tout. Non, la seule chose, c'est que ce qui me concerne, c'est qu'au fil des années, il y a longtemps que je travaillais sur ces choses-là, je découvrais au fur et à mesure que les grandes synthèses, c'était pas ça. Peut-être c'est pas de ma compétence, peut-être c'est pas de mes possibilités, peut-être c'est pas ce que je souhaite. Et j'ai beaucoup passé de temps sur le détail des textes. Et sur ce point précis, je vais reprendre à rebrousse-poil, semble-t-il, ce que je disais tout à l'heure. Les Juifs n'ont pas joué un rôle essentiel sur les traductions du grec voilà, à travers le monde. C'est faux. C'est tout simplement faux. Ce n'est pas pour diminuer bon, les vertus des Juifs. On ne m'en voudra pas de souligner ça. Souvent, je provoque un peu les publics juifs quand je parle de mathématiques, c'est mon domaine. Quand je dis, s'il y avait des prix Nobel à distribuer, 9e, 10e, 12e, 13e siècle, ils seraient... tous raflés par les scientifiques arabes. Tous. Ah oui, mais comment tu peux dire ça ? Ben Maïmonide. Tu dis Maïmonide quoi ? Est-ce que ça va lui enlever le fait qu'il est un géant de la pensée juive si je dis que ces quelques incursions dans les mathématiques ne sont pas négligeables ? Ce n'est pas des, ça ne se compare en rien aux gens qui, à l'époque, je parle des sciences ici. Alors, sur la philosophie, les choses sont plus compliquées. C'est sûr, hein ? Oui, la grammaire, il y avait de la grammaire chez des juifs arabes, arabisants. Donc, mais je parle de ces choses-là plus précises, parce que c'est plus facile, je veux dire, sur ces points précis. Et par exemple, quand j'ai travaillé sur Hasdai Kreskas, moins je connaissais des choses et plus j'avais des théories générales. D'accord ? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Au fur et à mesure que j'avançais, difficilement, c'est un texte très difficile, Hasdai Kreskas. Mais c'est sûr, avec Kreskas, par exemple, c'est sûr qu'il a utilisé, puisqu'il défend l'idée d'infini contre le Rambam. Bon. Oh, il a dû utiliser le Ensof des Kabbalistes. Non, il n'a pas utilisé le Ensof des Kabbalistes. Pendant longtemps, c'était comme si j'étais dessaisi de, je sais pas moi, de cette envie, de ce rêve. Il a été kabbaliste un petit peu, mais non, c'est pas dans Hasdai Kreskas, le Sefer Or Hashem. Non, c'est dans un premier temps, c'est de la philosophie, mais il étudie la philosophie de manière très très fine, mais pour la critiquer ensuite. Et puis pour proposer dans un deuxième temps ce qui est le savoir à partir de nos prophètes et à partir de, voilà, de la tradition. Mais donc, pour ça précisément, c'est pour ça que je parle de manière un peu vive, non, ce ne sont pas les Juifs qui ont apporté la science grecque dans le monde. Il y a des textes qui sont perdus en arabe et qu'on retrouve grâce à des traductions, en effet. Vous avez une somme dans un livre qui s'appelle, qu'a édité mon ami Gad Freudenthal, il y a une dizaine d'années maintenant, Sciences and Medieval Cultures, des choses comme ça. Il y a une recension par Mauro Zonta, malheureusement, qui nous a quittés très jeunes, de toutes les traductions qui ont eu lieu. De l'arabe en latin, du latin en hébreu un petit peu. Il recense 567 traductions qui, pour l'essentiel, viennent de l'arabe. Pour l'essentiel, pas exclusivement de l'hébreu vers le latin. C'est très riche, c'est du détail. Mais je pense que si on néglige le détail, on est pris par soit ses rêves. Enfin, je suis tout à fait pour qu'on rêve, hein, tout à fait. Hein. Heureusement, je rêve et parfois, il me manque de rêver. Mais quand il s'agit de convoquer des textes, y compris pour faire des généralités, David, tu as plus de possibilités que moi, à l'évidence. Et puis, tu en as envie de faire ces généralités. Moi, pas, mais c'est ni l'un ni l'autre, nous avons à nous flageller. Voilà ce que je dis. Donc, le détail, on peut se... Non, le détail, parce que parfois, le détail révèle quelque chose. Parfois, c'est tout. D'où le souci, je m'excuse, d'être... Non, les Juifs ne sont pas les auteurs, les transmetteurs de la philosophie gréco-arabe. Au demeurant, personne. Personne n'a traduit du grec en hébreu, ça, que ce soit clair. Hein. Personne. En tout cas, pas Maïmonide. Bon, peut-être quelques-uns dans les pays byzantins. Oui, d'accord. Mais c'était de l'arabe, bien sûr, à partir de l'arabe. Quand on lit la manière dont Maïmonide fait l'éloge d'Al-Farabi, il dit... Bah, c'est le plus grand des plus grands, c'est le deuxième maître, parce que le premier maître, c'est Aristote. Oui, il discute d'Avicenne, il discute d'Averroès, bon, il discute des autres, et quand il conseille à son traducteur, qui n'a jamais rencontré le fils de Tibone, il lui dit, non, tu dois étudier ça, hein, c'est ça que tu dois comprendre. Ne comprends pas les choses autrement, à partir de ça, tu comprendrais. Bon. C'est clair, non, c'est ni clair ni obscur. Avec ces textes-là, on comprend un peu mieux les efforts qui ont été qu'il fallait déployer pour arriver à offrir ça. David a tout à fait raison de dire. Quand la traduction en hébreu du Guide des Égarés rédigée en arabe arrive dans le sud de la France, disons grâce au Thibonide, le fils, mais le père avait commencé aussi, c'est, on peut dire, un tremblement de terre dans le monde intellectuel libre. Ok, c'est la pluie là, non, pas encore. Donc, voilà, la médecine, l'astronomie, les sciences. Mais donc, au fond, contrairement à ce que j'ai pu dire, je n'ai pas d'opinion sur l'Empire, la raison. Je peux dire que ce n'est pas vrai que dans l'Espagne, tout a été rose. Okay. Mais ça peut être paradoxal. Mais c'est vrai que malgré cette atmosphère, il y a eu des échanges. Il y a eu des échanges importants. On ne sait rien, par exemple, sur ce qu'a fait Maïmonide. On ne sait rien. Si vraiment, c'est en 12e siècle, là, quelle est la date de la prise de Cordoue par les Almohades? C'est une date si célèbre. Hein, 1148. D'accord. Si Maïmonide avait 10 ans, 1148, moi je veux bien qu'il ait été converti. Bon, laissons de côté le dossier de la possible conversion ou non de Maïmonide. Mais on ne sait pas après ce qu'il a fait. Visiblement, il est resté, puisqu'il dit qu'il a appris la médecine, qu'il a appris l'astronomie auprès des gens d'Al-Andalus. L'Andalus pouvait couvrir aussi, en même temps, le Maghreb. Mais bon, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne sais pas. Je laisse la parole à ceux... Non, pas ceux qui savent. Je ne vais pas jouer d'une manière démagogique. Ceux qui prennent tout ça et puis qui veulent essayer de comprendre comment on peut envisager. La survivance, moi, je ne le sens pas comme ça. Je ne le sens pas comme ça. J'ai peut-être tort. Hein.
Merci beaucoup, Tony. Bon,
Là, enfin, merci encore une fois, enfin, repris à rebrousse-poil ce que tu as dit tout à l'heure. Non, enfin, je veux dire, juste sur le plan, méta, disons, je dirais que voilà, j'ai proposé quelque chose qui me semblait adapté au cadre dans lequel on se trouve, c'est-à-dire dans ce séminaire où on essaie de réfléchir de manière générale
à la politique juive en exil. Et je ne conteste pas du tout le fait que c'est important de faire des études précises sur les textes dont j'ai parlé, qu'il y aurait des choses beaucoup plus détaillées à dire. Enfin, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Je suis pas non plus arrivé avec une grande thèse sur la question. Simplement, j'ai essayé de montrer qu'il y avait une espèce de constante dans l'histoire des rapports entre judaïsme et philosophie, qui est que la question de la politique est toujours présente, pas très loin, et avec une forme d'ambiguïté qui revient à la fois en raison des circonstances objectives dans lesquelles ces textes sont écrits, et à la fois dans la rhétorique qui est employée. Il y a toujours cette question de la philosophie, ça ressemble un petit peu à ce que la tradition appelle de manière, je te le concède très vague, l'empire, les nations, parmi lesquelles on est en exil. Voilà, donc c'est juste ça que j'ai voulu poser. Et puis par ailleurs, oui, tu as tout à fait raison d'insister sur le fait que, contrairement à une certaine doxa apologétique, il ne faut pas non plus en faire des caisses sur le rôle majeur que les Juifs ont joué dans la transmission du savoir, même s'ils en ont joué un. Oui. Mais je voulais revenir sur le dernier point de Yvan, sur la question de l'ulémorphisme. Alors juste pour rebondir sur la remarque de Léo, effectivement, dans l'ordre du texte, on dit Abraham et Sarah, Romer et Tsoura. On a l'impression que Sarah, c'est la forme, Abraham, la matière. C'est évidemment l'inverse qui est visé. C'est juste qu'on veut faire rimer le truc et qu'on veut en faire un slogan, comme ça a été très bien montré par un collègue qui s'appelle Ram Ben Shalom, qui a justement travaillé sur la puissance rhétorique de cette formule-là. Donc, c'est clair pour tous les lecteurs de ce texte et pour tous les gens de ces textes et tous les gens qui les lisent qu'en fait on veut dire l'inverse, comme c'est écrit dans le chapitre 1.17 du guide notamment, que la matière est associée déjà chez Platon au féminin et que la forme est associée au masculin. Et oui, enfin, après je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur le fait qu'il faut renvoyer dos à dos les deux camps, et je trouve que c'est effectivement très drôle de voir que, c'est-à-dire quand on transpose ces discussions avec tous les anachronismes qu'il faut à l'époque contemporaine où on a tendance à dire en gros le camp des philosophes maïmonidiens c'est les progressistes et les traditionalistes obtus c'est les anti-maïmonidiens. On a une espèce de position qui a l'air d'être inversée, en fait, parce qu'effectivement, on a, avec cette interprétation ilémorphique, le féminin comme matière, comme passivité, l'introduction d'un schème qui est très, très... alors, je ne sais pas si je dirais que la Bible est un texte féministe, par ailleurs, ça c'est une autre question, mais en tout cas, là, on a quelque chose qui est assez étranger à la tradition, de venir polariser les positions féminines, masculines dans ces termes-là qui de toute évidence placent le féminin dans une position d'infériorité et de soumission. Mais donc voilà, donc quand on transpose le truc dans l'espèce de cartographie des positions contemporaines, ben ça marche pas bien, quoi, parce que les progressistes, ben ils auraient plutôt tendance à trouver ça tout à fait scandaleux, ce type de texte, et en même temps à pas du tout se reconnaître dans le camp anti-maïmonidien.
Alors, je vais essayer de prendre les questions dans l'ordre.
Léo.
Non, c'était simplement peut-être une question qui aurait plus dû s'adresser au Rav Gonstein, mais peut-être à Yona aussi. Je voulais savoir, dans le monde yeshivique aujourd'hui, la place du Kutzari, d'Yehuda Alevi, Sefer Emunot Vedeot, Moré Nebuchim. Alors, je sais que j'imagine que c'est un monde très pluriel aussi. Dans le monde, on va dire, traditionnelle aujourd'hui de l'étude, quelle place elle a dans le corpus, comment ça s'étudie, est-ce que ça s'étudie, et au-delà de ça, peut-être à vous deux, trois, au-delà de la simple approche socio-historique et de rechercher l'intentionnalité peut-être politique derrière le texte, en termes de Limoud, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut, est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui peuvent en être faites, et quelle place cela peut avoir aujourd'hui, mais... Alors, en tant que directeur d'un maître émis.
Pour le Kuzari, c'est un livre qui se présente comme non polémique. C'est pour ça qu'il est... Le Kuzari se présente comme un livre non polémique du point de vue de la religion juive. Alors, il est plus, on va dire, pratiqué. Tandis que, avec le guide des égarés, on est obligé d'incorporer un autre corpus, justement. Donc c'est pour ça qu'il a été, au fil des générations, plus, on va dire, mis à l'écart. Tandis que pour le Kuzari, il n'y a aucune espèce, on va dire, de comportement de ce genre. Moi, je ne sais pas, je ne réponds pas au nom d'une institution, quelle que soit, de ce que je peux constater, quoi.
Eh bien, attendez.
Merci beaucoup pour votre intervention qui était très riche et très diversifiée. Mais je reste avec un petit doute que je vais vous exposer. En somme, vous avez commencé en nous disant habituellement, ça s'exclut. Le judaïsme et la philosophie, c'est plutôt... ça s'exclut, et c'est surtout la critique que vous avez portée précisément, c'est qu'on les pose comme deux entités préexistantes. Et votre travail a consisté précisément à interroger ces entités, à les déconstruire et à montrer que les relations entre les deux. Mais ce que j'ai compris, c'est que précisément vous les posez tout le temps. C'est-à-dire que en pensant les déconstruire, en réalité, vous montrez les problématiques à l'intérieur de l'histoire des penseurs juifs et des rabbins, mais ça reste deux entités. Donc ça, c'était ma première question, et c'est peut-être pas si facile que ça à déconstruire. D'autre part, je reprendrai ce que disait Catherine Chalier. Finalement, c'est assez banal, cette histoire de langues en contact et cultures en contact. Quand on sait très bien que quand il y a des dominés et des dominants, il y a des contacts qui se font, et donc on emprunte. Il y a des emprunts mutuels, culturels, linguistiques, etc. Et donc, il n'y a pas de spécificité, enfin, il n'y a rien de spécifiquement juif. Ça, c'est une question, là. Je ne vois pas bien comment se présente la spécificité. Troisième point, ça, c'est une curiosité. Je m'attendais, justement, dans la mesure où vous questionnez, justement, les deux entités, je m'attendais à ce que... Ça, c'est une hypothèse que vous n'avez pas explorée, sauf, justement, sous la forme du larcin des Grecs, je m'attendais à ce que vous nous fassiez sentir peut-être précisément les liens, comme l'a fait Lévinas d'ailleurs, entre la pensée grecque et la pensée juive. Lévinas reprenait quelque chose de traditionnel, à savoir que la langue grecque, oui, mais la culture grecque, non, puisque là, il y a de l'idolâtrie. Et donc, est-ce que les philosophes grecs ont certainement même été en contact avec le monde des yeshivot, avec le monde des rabbins, et ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont compris, c'est peut-être pas sous la forme du larcin, mais c'est peut-être sous la forme de la culture d'une excellence dans un domaine spécifique, le domaine, justement, de la raison telle que nous la connaissons, le logos, tel que le grec nous l'a transmis. Donc voilà mes questions, si vous voulez. C'est-à-dire que ce n'est pas justement deux entités séparées, mais c'est une même source qui serait la révélation et qui aurait donné une racine, si vous voulez, du côté du Logos, alors que du côté de la révélation juive, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Voilà, c'était mes questions.
Je me permets de vous dire, c'est votre intervention, parce que j'ai une question qui s'intègre plus ou moins dans la même perspective. Justement, vous opposez l'empire de la raison et celle de la révélation. Et je me demandais si vous pouviez expliciter, en fait, sur le plan méthodologique et épistémologique,
ce que vous entendiez par ces deux entités et ce qui les distingue vraiment, puisqu'on pourrait y voir de manière apparente un usage de la raison dans ces deux cadres-là, mais qui s'effectue probablement d'une manière différente. J'aurais aimé que vous puissiez le développer et clarifier ce que c'est.
Merci beaucoup. David, je te demanderais de parler assez fort. C'est la particularité de la barrière.
Merci pour ces questions. Et j'entends le reproche d'avoir commencé par dire il faut remettre en question le paradigme. Et... Oui,
alors je crie. Donc, je disais, j'entends le reproche que vous me faites d'avoir commencé par dire il faut remettre en question ce schéma d'une hétérogénéité radicale de philosophie et judaïsme, et puis ensuite de les avoir posés en fait tout au long de l'exposé. Je suis d'accord, je pense que c'est un chantier qui est en cours, mais ça rejoint un petit peu la question de Léo là tout à l'heure sur la place. Enfin, disons, moi mon point, il est très simple, il est de dire qu'en fait le schéma qui consiste à dire la philosophie est venue aux juifs par l'extérieur, il est vrai d'une certaine façon, mais en même temps il devient faux à partir du moment où ce qu'on entend par judaïsme, et quelle que soit la modalité par laquelle c'est le cas, complètement travaillé par des auteurs comme Saadia Gaon et Maïmonide. Quand bien même le Moré Nevouchim serait plus ou moins banni des yeshivot traditionnels, il n'en reste pas moins que c'est le même auteur qui a écrit le Mishneh Torah, il n'en reste pas moins qu'il y a une démarche d'ensemble qui se retrouve dans les deux textes, et que par conséquent, cette idée d'une extériorité radicale de la philosophie est devenue de fait problématique. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a une spécificité juive, si j'ai bien compris votre question, je dirais que d'une certaine façon, non. Enfin, ce que je propose de faire là, c'est d'essayer de lire ces débats-là aussi comme étant des débats qui traduisent une situation de minorité dans un contexte dans lequel les juifs sont une minorité, peut-être la minorité par excellence. On peut envisager les juifs comme étant hein. Oui. Ben voilà, enfin, adopter en tout cas différents types de comportements ou de stratégies vis-à-vis de la culture majoritaire.
Ce sont des juifs qui ont des positions de pouvoir, et donc ce sont des juifs qui n'ont pas eu peur de s'approprier et d'essayer d'allier les cultures.
Ouais, alors sur le troisième point, et je pense que ça rejoint à la question de votre question. Je pense que justement j'ai pas défini effectivement ce qu'on appelle révélation, ce qu'on appelle raison, parce que je pense que le débat il est complètement il est très complexe et il est très fortement imprégné de rhétorique, parce que c'est aussi bien dans l'histoire même de la philosophie, les philosophes passent leur temps, où de nombreux philosophes vont essayer de se distinguer de ce qu'ils appellent les sophistes. Mais si on passe son temps à dire, voilà, la philosophie c'est ça, c'est la recherche de la vérité, et puis la sophistique c'est l'usage du langage à des fins de pouvoir, on voit bien qu'en fait, il y a une ambivalence, il y a une proximité très forte entre les deux. Et c'est le même genre de partage qui est proposé par le texte que je vous ai lu tout à l'heure. C'est-à-dire dire, en gros, la chorma, c'est la vérité, et ça, c'est la Torah, en fait. Et Yevanit, c'est tout ce qui a à voir avec la culture grecque, païenne, je ne sais quoi. Bah, c'est proposé un certain partage complètement arbitraire au sens étymologique. C'est-à-dire, je décide qu'il y a une partie de ce que les Grecs ont dit qui est universel, indépendant du contexte dans lequel ça a été énoncé, et que donc, en fait, ça se trouve évidemment dans la Torah, puisque la Torah contient tout ce qui est vrai. Et puis, il y a tout le reste, qui est tout ce dont on ne veut pas, et dont on va décider que c'est étranger à la Torah. Mais à chaque fois, c'est une décision. Mais une décision dont l'enjeu, c'est de dire, voilà, le vrai, c'est ça. L'enjeu, c'est la question de la vérité avec les définitions, enfin, la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par vérité, et qui va varier justement si on est dans un paradigme de la révélation, dans un paradigme de la raison. Voilà. Et ça, je pense que c'est une grande question qui ne peut pas être résolue en quelques mots sous l'orage.
Alors, David Ancavage, merci de nous rejoindre.
Oui, je voudrais poser une question très simple. Dans le texte, il y a une citation de la Mishnah Sanhedrin qui dit, Rabbi Akiva dit, quiconque lit des livres extérieurs n'a pas part au monde à venir. Alors ma question est la suivante. Je voudrais poser une question et faire une remarque. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on connaît d'abord la position de Rabbi Ishmael ? Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva ont deux lectures très différentes de la Torah. Rabbi Akiva dit « La Torah parle le langage de Dieu ». Rabbi Ishmael dit « La Torah parle le langage des hommes ». Est-ce que cette simple différence, qui est en fait énorme, n'explique pas finalement la réception différente vis-à-vis de la philosophie, vis-à-vis de tout ce qui est extérieur, en quelque sorte, au judaïsme.
Ok. Sur ce point précis, je ne saurais pas vous dire quelle est la position de Rabbi Ishmael, je ne sais pas si on la connaît.
Une thèse qui a été soutenue au Canada, oui. Précisément, qui démontre les deux pensées, les deux écoles. Les pensées des deux écoles très très différentes les unes des autres.
Oui, enfin, ça je
vous donne la référence. Ouais.
Alors, sur ce point précis de Sfarim Chitsonim, je ne sais pas si on a la position de Rabbi Ishmael qui serait opposée à Rabbi Akiva, mais c'est vrai que sur les questions du rapport à la science extérieure, on peut trouver une forme de partition entre les enseignements de l'école de Rabbi Akiva et les enseignements de l'école.
Parce que ça expliquerait un peu, quelque sorte, la diversité des rapports à la philosophie.
Fabio Davido. Je sais qu'il nous a enseigné que c'est Crio Megira, il nous a enseigné que c'était crié.
Koré Besfarim Aritsonim, ça veut dire déclamer des récits, comme on dit de la Braïta, c'est une Mishnah Aritsonim, des cris qui ne sont pas intégrés au canon, comme tu as dit. Mais la question que je voudrais te poser, c'est en rapport avec le moment araméen de la philosophie. Que de ce qu'on entend, il n'y a pas eu de passage du grec à l'arabe. À aucun moment. Il y a eu des passages du grec à l'araméen et de l'araméen à l'arabe. Et que l'arabe, aux yeux des juifs, il était devenu une langue comme l'araméen, c'est-à-dire le véhicule, le média par lequel on se confronte à la culture autre que celle du texte du Tanakh et de la Mishnah. Alors, mais ça, c'était en rapport avec la remarque qui vient d'être faite. Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, ils ne peuvent pas être en opposition telle que la chose a été dite, parce que c'est déjà une interprétation de ce qu'ils sont en train de dire
Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael de Rambam que vous convoquez pour savoir si Rabbi Ishmael peut s'opposer à cette chose-là. Parce que dans le Talmud, ce qu'on a mis en avant, c'est que Rabbi Ishmael dit « Dibra Torah Kelashon Bene Adam » et Rabbi Akiva dit « Le Dibra Torah Kelashon Bene Adam ». Mais de dire que ça, c'est l'enjeu, est-ce que il y a une obligation d'interpréter, ça, c'est pas directement dans la phrase du Talmud elle-même, c'est une, on va dire une récupération de Rambam de cette phrase. Donc d'après moi, il n'y a pas tellement à chercher est-ce que Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael s'opposeraient là-dessus, puisque à ce haut niveau de théoricité, tout le monde est d'accord que cette phrase-là, Dibra Torah Kelashon Ben Adam, ou le Dibra, elle est directement pas l'enjeu de ces mots-là dans le Talmud.
Sur le moment araméen, je sais pas exactement. Je saurais pas exactement quoi dire. Mais. Oui, bah, je parle pas, c'est pour ça. Non, ça me faisait penser à ce que tu disais, simplement que, effectivement, pour ajouter au portrait général du personnage de Saadia Gaon, qu'il a jugé nécessaire de remplacer le Targum, entre guillemets, de proposer une traduction en arabe qui remplace le Targum. Donc ça va bien dans ce sens-là, c'est-à-dire que il prend une position polémique dans le cadre d'une discussion parmi les Gaonim sur est-ce qu'on peut se soustraire à l'autorité du Targum, donc de la traduction araméenne. Et on connaît des positions qui par exemple celle de Natrona et Gaon un siècle avant qui consiste à dire non, c'est c'est notre Targum, donc on ne peut pas proposer une autre traduction, c'est la traduction qui est validée par le Talmud, etc. Et lui, il va proposer une nouvelle traduction, constatant que les gens ne comprennent plus l'araméen et que c'est plus la langue que les gens parlent. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un lien à faire entre ça, cette entreprise-là, et la philosophie. C'est-à-dire cette idée qu'il faut en passer par la traduction, à la fois au sens propre et à la fois au sens métaphorique de la traduction dans un langage conceptuel.
Je veux. Vas-y.
Il y a une boisson.
Merci pour votre intervention. Moi, ça va être la fin. Donc, mais justement, je voudrais revenir à la fin de votre intervention, qui pourrait être une ouverture d'ailleurs, ou en tout cas, et faire un bond dans le temps. Vous avez parlé de Lévinas et de Benny Lévy. Alors justement, j'aimerais bien que au regard de ce que vous avez dit, du titre, si vous pouvez étayer la fin de votre intervention.
Ça va se calmer. J'ai une trentaine. Ouais.
C'est bon.
Donc moi, effectivement, ce que j'ai en tête quand je, avec mon allusion là de la fin, c'est de manière très précise le séminaire de Benny Lévy sur Lévinas et le grec, où donc il reprend de manière critique la lecture que Lévinas fait du texte de Megillah sur la traduction en grec ou non de la Torah, et dans ce texte là. Comme dans d'autres textes polémiques avec Lévinas, ce qui est travaillé, disons, par Benny Lévy, c'est justement cette espèce d'assimilation qu'il fait entre la philosophie grecque et ce qu'il appelle l'Empire du Rien.
c'est-à-dire de la thèse dans laquelle tout est politique. Et donc il va justement soulever ce, à nouveau frais, je dirais, le même point que celui qu'on a pu voir à l'époque médiévale, qui est d'essayer de jouer sur la proximité ou la provenance commune, disons, entre l'empire hellénistique et la philosophie. Et de soutenir que finalement on ne peut pas disjoindre les deux, quoi. On ne peut pas disjoindre la philosophie grecque et l'empire qui va opprimer, dans laquelle Israël va se perdre, quoi. Et Lévinas, il se trouve du côté de ceux qui vont s'assimiler, c'est-à-dire, en fait, je dirais devenir philosophe, quoi. Aspirer à devenir philosophe. Et lui, il se trouve dans la position de venir opposer à la politique / philosophie autre chose qui serait la pensée des sages d'Israël. Ouais.
Ça c'est ce qui correspond au nom du pasteur, mais sur être juif, il est plus sur pied à pied avec Lévinas, et il est beaucoup plus. Enfin, lui, il oppose vraiment, il met le point, il met avec beaucoup de. J'allais dire pas plus que d'empathie, mais il critique le fait qu'il y ait une certaine compromission.
D'utiliser la philosophie comme si la pensée ne produisait pas assez de philosophie et qu'il y a une sorte de compromission, il me semble, par rapport à évidemment, il le fait par rapport au fait qu'il critique le fait que Lévinas était un universitaire et que de l'endroit où il était un petit peu obligé. Mais en même temps, il montre bien le chemin entre Rosenzweig, Lévinas et le reste. Et lui, en fait, sur le. Mais c'est un.
Ouais, bah, moi, c'est
je rejoins un peu ce qu'a dit Yvan tout à l'heure sur la définition du Yevanite, c'est-à-dire je ne sais plus dans quel traité où il parle que c'est un langage de ruse. Je crois que c'est ça qui veut dire. C'est pas. Que la philosophie je sais pas, je crois que quand il parle de l'idéologie ou de la pensée yévanite, c'est évidemment puisqu'il dit que Rome, après il y a ni Lachon ni Ktav, et que donc Rome a utilisé, Edom a utilisé la pensée yévanite, c'est une sorte d'idéologie comme ça dominante qui a produit aussi de la philosophie. Et que cette philosophie-là, elle vient de là. Elle vient de. Donc, il démontre un peu ça, je trouve.
Ouais, mais non, il semble que.
Enfin, Tony, il explique.
Oui, je ne crois pas qu'il oppose la philosophie qui lui met à l'empire du rien.
L'empire du rien, il en parle. À partir des notions fournies par le Maharal dans un article très critique, très provocateur. Mais dans le texte que Bernard évoque, qui est son dernier texte, qui est L'être juif, pas le livre, mais aussi tous les séminaires pendant 2 ans qu'il a donnés, ce qu'il veut faire accoucher, si j'ose dire, de son point de vue et par rapport à celui qu'il a considéré comme son maître et pour qui son affection ne s'est jamais, jamais, jamais dissipée, c'est que c'est la pensée du retour qui va pouvoir dissoudre ces apories, si on peut utiliser un mot un peu savant. Mais tu as entendu le mot empire, il m'a semblé, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, comme si c'était ce qu'on disait en ce moment sur les empires, la survivance. Non, ça ne serait pas correct. C'est pas la pensée du retour opposée à l'empire du rien. Non, c'est pas vrai. C'est pas dans son séminaire qui fait quand même combien de pages, Bernard?
Bon, enfin, c'est. Vous parlez du séminaire sur
Lévinas et Grec. Oui, oui, non, mais c'est le dernier. Enfin, il y a le livre, le dernier, qui est paru le lendemain de sa mort, et il y a précédent deux années entières de séminaires que sa femme Léo a publié et qui font quand même combien de pages, Bernard, toi tu connais ça par cœur, beaucoup. Parce que c'était 56 heures hein, de bande enregistrée, 56 heures. Donc là, on peut critiquer, ça va de soi. Il n'est même pas la peine de dire qu'on peut critiquer, ça va de soi. Mais je voulais juste sur cette intervenir, j'avais peur que tu aies pris l'expression « l'empire du rien », qu'il emprunte au Maharal, je répète, dans une intervention très polémique, très provocatrice, contre ses anciens amis, psy, d'ici, bon, peu importe. Mais je ne crois pas, à aucun moment, que ce soit l'opposition. La pensée du retour, Rosenzweig, et puis Lévinas, et puis beaucoup d'autres, et puis ce qu'il pense lui, il estime pouvoir penser aussi par lui-même, ça ne s'oppose pas à l'empire du rien. Ma seule crainte, c'était que le mot empire ait été utilisé au sens où tu as parlé, avec le droit le plus absolu d'en parler, des empires au sens politique. C'est ce point précis, c'est
en
tout.
En fait, c'est intéressant parce que c'est quand même. Lui, il est très radical. Enfin, il est assez radical, comme il est dit sur l'opposition entre lui et la philosophie. Même si lui, il est resté philosophe, évidemment.
Mais ça serait intéressant de voir quel point de vue vous avez sur cette radicalité par rapport à ce que vous avez évoqué.
Le point de vue j'ai sur cette radicalité.
Oui, sur le
oui, quel point de vue vous avez sur cette radicalité.
David va répondre et en même temps il va conclure.
D'accord. Non, mais c'est
peut-être. Ouais, non, enfin, moi il me semble que, en tout cas, en basant sur Lévinas et le grec, qu'on peut lire cette polémique avec Lévinas comme étant. De polémique avec Lévinas. Parce que la lecture de le séminaire Lévinas et le grec est une espèce de très longue critique de la lecture lévinassienne du passage de Megillah. Ok, alors, je ne sais pas critique. La critique qu'il formule de Lévinas, d'accord, il me semble qu'elle joue justement sur la limite qui est très difficile à déterminer entre d'un côté la philosophie comme discipline de la raison et d'un autre côté la philosophie comme instrument de certains types de pouvoir, et notamment du pouvoir grec, je veux dire l'un et l'autre, me semble-t-il, dans ce texte-là, c'est-à-dire Lévinas comme Béni Lévi, partagent de dire que quand on parle de traduire vers le grec, en fait, on parle de l'Occident, de la langue universitaire, de la philosophie. C'est quelque chose qui est commun. Ils ont des positions opposées sur ce point-là. Et ce qui me semble bien être bien ressortir de la critique de Béni Lévi, c'est justement ça, quoi. C'est une espèce d'ambiguïté qui est très forte. Dès lors qu'on parle de philosophie, c'est-à-dire de difficulté à le disjoindre d'un dispositif de pouvoir. Oui.
Merci beaucoup.
Mille merci, David.